Chapitre 7. Dieu fait annoncer sa grâce par l'homme même dont le roi cherche la vie. Et Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Demain à cette heure-ci, la mesure de fleur de farine sera à un sicle, et les deux mesures d'orge à un sicle à la porte de Samarie. » Verset 1. Oui, Dieu proclame pour le jour qui va suivre qu'il donnera l'abondance et rassasiera les pauvres affamés, alors même que leur péché fut la cause de la famine. À la proclamation de cette bonne nouvelle, un des assistants se moque de Dieu. Et le capitaine, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu et dit, « Voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il ? » Verset 2. Le roi était incrédule à ce message, cela se voit dans la suite. Verset 12. Il gardait intact dans son cœur sa haine et sa révolte, et cependant son état était moins terrible que celui de ce moqueur quand la bonne nouvelle de la grâce de Dieu est proclamée par son prophète. Ce dernier lui dit, « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Dieu supporte tous les pécheurs avec une immense patience, mais ceux qui se moquent de lui et de sa parole sont irrémédiablement perdus. Nous verrons à la fin du chapitre que cet homme est le seul qui, dans une scène de délivrance et d'abondance, soit retranché sans y avoir aucune part. Le caractère des moqueurs n'est pas de nos jours aussi rare qu'on le pense. On peut dire au contraire qu'il caractérise les temps où nous vivons. Pierre dit, « Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise et disant, « Où est la promesse de sa venue ?» Car depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, que, par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. 2 Pierre 3, versets 3 à 7. Ne pensons pas que les moqueurs soient des gens qui rient de toute piété. L'incrédulité d'il y a un siècle et demi revêtait peut-être ce caractère, mais les temps ont changé. Les moqueurs d'aujourd'hui étalent très sérieusement leur incrédulité. Ils raisonnent. La parole de Dieu est pour eux nulle et non avenue. Comme pour le capitaine de Joram, et n'ayant pas confiance en elle, il se confie en la stabilité des choses visibles, et affirme qu'elle ne prendra jamais fin. Ils ignorent volontairement, et c'est le caractère de leur moquerie, ce que Dieu leur a révélé par sa parole. Leur jugement est à la porte. Et maintenant, Dieu nous montre que si l'homme ne veut pas de lui, non seulement il prépare, comme dans le chapitre précédent, un grand festin à ses ennemis, mais qu'il prépare aussi des âmes en vue de la jouissance de ce festin. Et il y avait, à l'entrée de la porte, quatre hommes lépreux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi sommes-nous assis ici, jusqu'à ce que nous mourions ?» Ces quatre hommes étaient souillés, car la lèpre est l'emblème du péché qui souille l'homme. Comme tels, ils ne pouvaient demeurer avec le peuple. Leur souillure les plaçait hors de la porte de Samarie. Ils étaient du même coup, comme tous lépreux, exclus de la présence de Dieu. De plus, leur condition était telle qu'ils ne pouvaient l'ignorer. Leur maladie offrait cette particularité qu'elle était dûment constatée en Israël, qu'on ne pouvait la cacher à Dieu, ni aux autres, ni à soi-même. Enfin, sinon par une intervention directe de Dieu, hors de toute ressource humaine, elle conduisait fatalement à la mort. Tel était donc l'état personnel de ces quatre hommes à l'entrée de la porte de Samarie. Ce qui le rendait plus terrible, c'est que la mort les environnait de toutes parts. Si nous disons « Entrons dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons », et si nous restons assis ici, nous mourrons. Et maintenant, venez et passons dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Verset 4. S'ils avaient pu rentrer en ville, ils y auraient trouvé la famine et la mort. Rester où ils étaient, était sans contredit la mort. Se rendre à l'ennemi, représentant du jugement de Dieu, et qui en tenait l'épée, n'était-ce pas encore la mort? Mais de ce côté-là, du moins, il y avait une lueur d'espoir. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Leur vie dépendait de la bonne volonté de l'ennemi. Peut-être ne prononcerait-il pas la sentence. Ne traversons-nous pas aujourd'hui les mêmes circonstances? Le pécheur, convaincu de péché, ne peut trouver de secours et de délivrance auprès du monde, même sous son aspect religieux. Il n'y rencontre que la famine et la mort. Il ne peut rester dans son état actuel, c'est encore la mort. Il a devant lui la menace du jugement de Dieu, et c'est la mort terrible et fatale. Mais peut-être le juge aura-t-il pitié de lui. Qu'il aille donc se jeter aux pieds du juge. Qu'il aille, il apprendra que ce Dieu juge est le Dieu d'amour, le Dieu sauveur. Mais notre récit ne va pas aussi loin. Ces lépreux ne se lèvent pas pour rencontrer Dieu. Ils s'avancent, incertains et craintifs, arrivent au bout du camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne. Qu'était-il arrivé? Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et croyant à une attaque des alliés d'Israël, il s'était enfui, abandonnant tente, ânes et chevaux et le camp tel quel, pour sauver leur vie. L'ennemi lui-même, instrument du jugement de Dieu, avait disparu. Le jugement était tombé sur lui. Il n'y avait plus de jugement. Comment cela avait-il pu se faire? Un bruit de grande armée s'était fait entendre, mais ce n'était qu'un bruit, chose en réalité faible et insignifiante, nullement comparable aux chevaux et aux chars de feu de Dothan, mais chose des plus puissantes, parce qu'elle provenait du Seigneur lui-même. Lui était dans ce bruit, et cela suffit pour anéantir toute la puissance de Ben-Hadad. Pour nous, chers lecteurs chrétiens, ce bruit s'est fait entendre à la croix, où le Fils de Dieu eut affaire à toute la puissance du prince de la mort et de son armée. Il l'a vaincu par ses propres armes, mais sans aucun déploiement de force. Dans la mort d'un seul homme, crucifié en faiblesse, se trouvait la puissance de Dieu pour vaincre, anéantir, annuler cet ennemi terrible. Telle a été la mort de Christ. Satan tenait l'homme captif sous la crainte de la mort, et il a été vaincu par ses propres armes, comme la tête de Goliath fut tranchée jadis par le faible David avec l'épée même du géant. La mort était vaincue, le jugement annulé pour ces quatre lépreux. Ils allaient, tremblants, au-devant de ces choses. Ils trouvent à leur place la vie, une abondance de biens et de richesses, et de quoi assouvir leur faim, toutes les dépouilles de l'ennemi, sans qu'il leur en coûte rien. Ils récoltent le fruit de la victoire, qui, pour nous, est celle du Seigneur. La paix est dans le camp, personne ne s'oppose à eux, ils sont rassasiés, découvrent des trésors qu'ils s'approprient. Mais peuvent-ils se taire et les garder pour eux? Non. La joie du salut est communicative. Ces hommes deviennent pour d'autres des messagers de bonnes nouvelles. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous nous taisons. Ce qui caractérise ce chapitre, ce n'est pas un Dieu qui ôte la souillure du péché, sinon ces lépreux comme Naaman ne seraient pas restés ce qu'ils étaient, mais un Dieu qui ôte le jugement dans la personne de l'ennemi et détruit en même temps la puissance de la mort, afin que de pauvres êtres souillés puissent vivre et jouir des bénédictions dont ils étaient privés. Remarquons encore un des caractères de l'Évangile dans ce récit. Quand Élisée annonce pour demain que la famine aura cessé, il dit « Écoutez » verset 1. Cette parole s'adresse indistinctement à tous. Peuple, roi, capitaine moqueur, comme la semence du semeur tombe indifféremment sur chaque terrain. Il en est de même de la victoire remportée. Tous y sont invités. Ces résultats sont offerts indistinctement à tous. Le peuple, la ville tout entière, le roi et ses serviteurs sont conviés au festin. Ce fameux « demain » annoncé par le prophète s'est changé en un « aujourd'hui ». Tous viennent, se repaissent et s'enrichissent, mais sont loin de partager la joie des lépreux. Ceux-ci, en présence des merveilles de leur salut, ne peuvent rester muets. Il faut qu'ils parlent. Nous nous taisons. On voit comment le roi et ses serviteurs reçoivent l'annonce de la délivrance. Versets 12 à 15. Pour eux, ce salut qui ne leur coûte rien cache un piège. Faisons au moins, disent-ils, quelque chose de notre côté. Et ils se mettent à poursuivre l'ennemi avec deux chars et cinq chevaux fourbus. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de retarder l'heure de la délivrance en cherchant à constater ce que la foi des lépreux avait saisi avant leur enquête. Leur pensée, en présence de la bonne nouvelle, est pure incrédulité. Le roi dit : Je veux vous dire ce que les Syriens nous ont fait. Ils savent que nous avons faim. Ils sont sortis du camp pour se cacher dans les champs, disant : Ils sortiront hors de la ville, et nous les prendrons vivants, et nous entrerons dans la ville. Verset 12. Puis, sur la proposition d'un de ses serviteurs, il ajoute : Allez et voyez. La vue pour eux remplace la foi. Et s'ils ont part comme les autres au résultat de la délivrance, la vue ne les sauve pas. Elle n'a jamais sauvé personne. Le capitaine en est un exemple effrayant. Le prophète lui avait dit : Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Verset 19. Et il lui en arriva ainsi. Le peuple le foula aux pieds dans la porte, et il mourut. La vue fut pour lui le prélude immédiat de la mort.